Messieurs, mesdames, bonsoir. Vous écoutez maintenant la tribune de la presse sur Radio Okapi. La parole est aux journalistes pour analyser et présenter des faits sur la situation sociopolitique et sécuritaire en République démocratique du Congo. Au micro, Freddy Bikumbi Ignace. Les conseils de sécurité des Nations Unies a tenu mercredi dernier une session de travail autour de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo. Malgré les sanctions ou appel à la cessation des affrontements, rien ne semble inquiéter le M23 et les Rwandais qui poursuivent avec leur avancée sur terrain. Qu'est-ce qui reste à faire alors? D'autre part, certaines églises de réveil ici à Kinshasa sont entrées dans la cadence de la paix. Ces églises de réveil procèdent aux consultations à l'instar de la SECO et l'ECC. Qu'en pense le journaliste congolais? Voilà nos sujets aujourd'hui. Et pour en parler, je suis avec Anderson Erabo, journaliste de la radio-télé Évangile et Réconciliation de Nyakoundé en Ituri. Bonsoir.
Bonsoir à tous les autres.
Veuillez bouger un peu pour votre ligne. Grâce Chaco, bonsoir.
Bonsoir cher Freddy, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Vous êtes journaliste à la radio RTGA FM ici à Kinshasa. Bienvenue aussi à vous Freddy Tioyo, journaliste responsable du site d'information sntv.cd basé à Kinshasa. Bonsoir.
Bonsoir cher Freddy, bonjour à tous les radio Okapi.
Bienvenue chers auditeurs pour cette tribune de la presse aujourd'hui et ouvrons ces magazines avec vous Tioyo pour nous parler de l'actualité qui vous a plus attiré.
Ben écoute cher moi Freddy, c'est que j'ai comme l'impression que on a un président Freddy qui est esselé, qui est abandonné. Pourquoi je le dis? Parce que depuis que Goma est tombé jusqu'à aujourd'hui, on tend vers les villages dépassés Bukavu. Les ténors de l'Union sacrée sont restés taiseux. Ils ne parlent pas, ils tournent les pouces. Je vois un président là, échelé, qui se démêle ça et là pour trouver des solutions. Mais lorsque, dans ce pays, on parle de partage de pouvoir au niveau du gouvernement, portefeuille, en presse publique, ouais, les gens des groupes se réunir à tout moment là, comme quoi, moi je pèse autant de députés, moi j'ai autant, mais depuis qu'il y a eu rebondissement de cette crise sécuritaire dans la partie orientale, un silence coupable. C'est comme si les gens font les bifaces, un peu des traîtrises là, comme s'ils sont contents de ce qui se passe, alors que c'est les moments des démontrer que nous sommes soudés, qu'ils sont loyaux envers le chef de l'État. Il n'y a aucune réunion du président de l'Union sacrée, il n'y a pas de rencontre pour souder les coudes, démontrer cette cohésion du gouvernement ou du chef de l'État autour de le soutien moral.
Rendons-nous à Ituri. Quelle est l'actualité dans cette partie de la RDC, Anderson Erabo?
Merci beaucoup pour la parole, cher confrère Freddy Bikumbi. Malgré la psychose suite au passage de l'armée ougandaise UPDF aux environs de la ville de Bunia, les activités se déroulent actuellement bien, sans inquiétude. Bunia, c'est une cosmopolite, nous savons. La cohabitation pacifique est plutôt la cohabitation de plusieurs tribus, ici sur le territoire, plutôt sur, dans la province de l'Ituri. Tout marche très bien. Quand nous avons suivi sur les ondes de la radio, il y avait des attaques au niveau du village Djaïba, à plus de 2 km de Fataki Centre.
Merci Anderson Erabo. Revenons à Kinshasa avec vous, Grâce Chaco, sur l'actualité qui vous a plus marqué.
Je pense que les confrères sont déjà revenus sur l'essentiel de l'actualité de cette semaine. Moi, j'aimerais simplement rebondir sur l'urgence humanitaire. Je pense qu'on n'en parle pas assez ou on en parle de moins en moins, l'urgence humanitaire qui est à l'est de la RDC. Et J'ai vu la première ministre Judith Suminwa recevoir la chef de la MONUSCO Bintou Keïta pour énumérer certains points, dont le rapatriement, en fait, l'ouverture d'un couloir humanitaire pour aider les déplacés, également le rapatriement de personnel militaire et politique un peu bloqué encore à Goma, et aussi continuer à avoir une implication de la communauté internationale autour pour que les droits internationaux puissent être respectés. Je pense qu'il faudrait en urgence, vraiment en urgence, que les décideurs, toutes les parties prennent, c'est-à-dire que le gouvernement, les partenaires nationaux, internationaux, les ONG, etc., il faudrait fixer un regard sur la crise humanitaire sans précédent qui est à l'est du pays. Au-delà des discours, il faudrait faire quelque chose. Il faudrait absolument que les femmes, les enfants qui vivent des situations injustes, qu'ils n'ont pas demandé à cause de cette guerre, puissent être pris en charge en termes de soins médicaux, en termes de nourriture, en termes d'habits, en termes de tout ce qu'il y a. C'est vrai qu'il y a la guerre, mais les à côté de la guerre, c'est cela. Et on ne va pas faire mourir des enfants qui n'ont rien demandé, qui se déplacent de jour en jour, de ville en ville, qui n'étudient pas. Et on ne sait pas quel est l'avenir, puisqu'ils n'étudieront pas dans les, peut-être, ils vont pas étudier les deux semaines qui vont suivre. Donc il faudrait, à mon avis, qu'il y ait encore un peu plus d'intensification des réunions autour de la crise humanitaire. Il faudrait, en toute urgence, ouvrir un couloir humanitaire entre Goma, Bukavu, etc., pour que, justement, il y ait... Il y a l'appel au don de sang qui a été fait par le ministre de la Santé. J'ai donné mon sang, plusieurs l'ont fait. Mais maintenant, il faudrait voir, est-ce que ce sang arrive? Parce que s'il n'y a pas ce couloir humanitaire, le sang n'arrivera pas. Et les gens vont mourir. Vous avez déjà entendu le bilan. Nous en sommes à plus de, je crois, j'ai vu 2000 morts, etc., que le gouvernement a donné à Goma. Mais c'est parce qu'il manque justement cette prise en charge. Il faudrait avoir ce regard sur la crise humanitaire à l'est du pays.
Et compte tenu de la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, il y a eu une session d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU mercredi 19 février. D'ailleurs, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a pris part à cette réunion. Et pour la République démocratique du Congo, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, était aussi présente. Pour vous, chers confrères et consoeurs, et à nos auditeurs, suivez ces condensés de cette session du Conseil de sécurité avec Blaise Chindani Kambala.
Prenant la parole au cours de cette réunion d'urgence, la chef de la MONUSCO s'est appesantie sur la situation qui s'est détériorée depuis la prise de la ville de Goma par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Bintou Keïta a affirmé que le M23 empêche à la MONUSCO à réapprovisionner en eau et autres produits de première nécessité les troupes de la SADC. Bintou Keïta.
Depuis la prise de Goma, le M23 impose de sévères restrictions sur la liberté de mouvement de la MONUSCO, empêchant les efforts visant à évaluer les dégâts à l'aéroport de Goma et a aidé à l'élimination en toute sécurité des munitions non explosées dans la ville.
Thérèse Kayikwamba, ministre des Affaires étrangères, quant à elle, a affirmé devant le Conseil de sécurité que le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert en RDC.
Le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. En 48 heures seulement, plus de 4000 morts à Goma. Des enfants témoins d'exécutions sommaires, tués sans distinction ou exécutés avec une précision glaçante. Plus de 4500 blessés ont afflué vers des hôpitaux débordés. 500 corps ont été retrouvés calcinés dans la prison de Mounzenze.
La chef de la diplomatie congolaise a regretté que, malgré toutes les dénonciations de l'imposition d'une administration criminelle des terroristes, sous le regard du Conseil, ce Conseil qui observe, ce Conseil qui condamne, mais ce Conseil qui n'agit pas, a-t-elle conclu?
Merci à Blaise Chindani Kambala. Quelle analyse faite dans ce contexte non contraignant au M23 et le Rwanda, malgré les appels au cessez-le-feu, des affrontements continus, et vous avez senti ce qui a été dans cette session au Conseil de sécurité des Nations Unies, avec vous, Grâce Chaco.
J'ai envie de dire que lorsqu'il n'y a rien de contraignant, c'est vraiment le mot qu'il faut dire, lorsqu'il n'y a rien de contraignant qui vient du Conseil de sécurité, qui vient de New York, est-ce qu'on peut attendre quelque chose? Lorsqu'il n'y a que des sanctions, des déclarations, et qu'il n'y a rien de contraignant sur le terrain, on ne peut rien attendre. Parce que justement, aujourd'hui, tout le monde le sait, les Occidentaux sont derrière cette guerre. Les multinationaux sont derrière cette guerre, derrière le Rwanda, qui est derrière le M23. Et lorsqu'il n'y a que des déclarations, c'est ce que tout le peuple, le petit peuple congolais le dit, lorsqu'il n'y a que des déclarations, nous condamnons le Rwanda, nous demandons au Rwanda de retirer les troupes et patati patata, nous ne pouvons pas espérer quelque chose du Conseil de sécurité. Ça, c'est mon avis. On ne peut rien attendre à ce jour du Conseil de sécurité. Tout ce que nous voulons, c'est que les sanctions soient effectives. Depuis que le Conseil de sécurité, avec l'excellent travail que la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, est en train de mener, l'excellent travail que tout le gouvernement est en train de mener, mais il reste toujours des sanctions et sur le terrain, il n'y a rien. J'ai simplement envie de dire que nous ne pouvons rien attendre de ce genre de déclaration. Ce que le peuple congolais attend, c'est que la communauté internationale se lève. Les sanctions ont été très vite données à la Russie quand il s'est agi de l'Ukraine. Il y a eu des sanctions directes sur la Russie. Mais pourquoi sur la RDC et le Rwanda, les sanctions concrètes ne viennent pas? Pourquoi on se limite à dire des choses et on ne fait rien? On reconnaît aujourd'hui que c'est le Rwanda, on reconnaît que c'est celui qui dirige le M23, mais on ne dit rien tant qu'il n'y aura rien de concret, tant qu'on ne va pas aller soutenir les forces armées de la RDC à faire la guerre, tant qu'on ne va pas soutenir les efforts diplomatiques menés par la RDC, donc on va rester sur des réunions. À mon humble avis, la situation ne changera pas.
Pensez-vous que ces sanctions, ces cessions de travail suffisent pour amener le Rwanda et le M23 à respecter l'intégrité territoriale de la RDC?
Le Rwanda et le M23 se comportent comme des rebelles. Ici, on parle en matière de sécurité. Le Rwanda se comporte comme des rebelles. Et je pense qu'ici, nous devrions aussi en tenir compte. Nous devrions tenir compte que nous sommes devant, en face des rebelles qui sont en train d'atteindre l'intégrité des territoriales et que nous, si nous partons sur base des réunions, sur base des conseils sécuritaires, il ne peut rien en sortir jusqu'à là. Parce que jusque-là, c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'il y a quelque chose qui se fait que ça ne marche pas, on change de donne. On change la manière de faire pour soit gagner la guerre ou avoir la paix. Tout ce que le peuple congolais, moi je me mets du côté du peuple congolais, nous avons besoin de la paix par tous les moyens. Et si le Conseil de sécurité continue de condamner et de déclarer sans donner des sanctions concrètes au Rwanda, pour moi je ne vois pas l'avenir et les résolutions, je ne vois vraiment pas l'avenir d'une paix certaine dans la région. Il faudrait des sanctions contraignantes. Il faudrait vraiment qu'on tape du poing sur la table en face du Rwanda qui continue à siéger. Et à venir aussi, lorsque notre ministre des Affaires étrangères parle, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda parle aussi. Donc il faudrait à ce moment-là aussi se dire, voilà le Rwanda, nous vous demandons de quitter la RDC, nous vous appelons à cesser, mais nous appelons par exemple, nous n'achèterons plus le cobalt, par exemple. Nous n'achèterons plus le cobalt qui vient du Rwanda. Parce que nous savons qu'ils prennent le cobalt de la RDC, nous n'achèterons plus les minerais qui viennent du Rwanda. Donc c'est tout ça. Nous avons vu des députés européens se lever contre cela, se lever contre le partenariat qui est entre l'Union européenne et le Rwanda. Ils se sont levés contre cela. Mais à ce jour, est-ce que l'Union européenne a arrêté ce contrat? C'est de ça dont nous parlons. Dès qu'il y aura par exemple ce contrat qui s'arrête, le Rwanda n'aura plus à vouloir faire la guerre pour absolument piller nos minerais. Nous avons besoin des sanctions contraignantes. C'est en tout cas ça mon avis.
Anderson Erabo, il y a eu cette session de travail au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies mercredi. Comment est-ce que vous, en tant que journaliste congolais, vous analysez cette approche?
Cette réunion illustre les quintides croissantes de la communauté internationale face à l'escalade des attaques qui mène sous seulement la stabilité de la RDC, mais aussi celle de toute la région des Grands Lacs. Le Conseil de sécurité a probablement abordé des limites de la MONUSCO, dont l'efficacité est de plus en plus critiquée par la population congolaise, et nous savons tous. La RDC entend des mesures fortes de la part de la MONUSCO, que ce soit un renforcement du mandat onusien ou un engagement diplomatique plus ferme. Car ça, sans une volonté, confrère Freddy, sans une volonté politique réelle, cette session risque d'être que énième débat stérile.
Mais quand même, il y a des sanctions, Anderson.
Exactement, il y a des sanctions, chers confrères.
Ou des appels au cessez-le-feu, hein.
Tout à fait, il y a des appels et des sanctions contre les groupes armés qui sont en train de créer des terres dans la dans notre pays, la RDC. Mais jusque-là, nous patientons. Je ne sais pas si on attend l'arrivée de Jésus-Christ pour résoudre le problème. Ce n'est pas la première fois que les Nations Unies ont déjà lancé d'appel de cesser le feu, mais jusque-là, nous voyons. Revenons un peu au niveau de Goma. À l'époque, quand M23 est entré au niveau de Goma, il y avait des mots donc, de partout ailleurs. Cesser le feu, la MONUSCO avait dit, même l'Ouganda, Nairobi, cesser le feu. Mais nous voyons toujours la continuité. Donc, ils ont attaqué Bukavu, ils sont en train de progresser lentement, mais sûrement. On ne sait pas si on va arriver jusqu'où avec cette situation. Ils sont en train de faire les semblants, comme s'ils sont en train d'écouter, mais néanmoins, mais ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. Donc, il semblerait qu'ils ont donc agenda caché. Même s'ils l'acceptent, c'est le fait, mais par après, vous allez écouter, après 2-3 jours, il attaque tel village.
Merci à vous, Anderson Erabo. Freddy Tioyo, vous êtes avec nous et vous avez suivi cette session de travail au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'en pensez-vous?
C'est-à-dire que la RDC, j'ai l'impression que nous sommes victimes d'un complot international. Les sessions, il y en a eu, il y en aura toujours, mais sur le terrain, rien ne marche. Pour le Rwanda, c'est une question des vies ou des morts, parce que l'économie en dépend. Le Rwanda exporte le coltan sur notre sol, le revend auprès des multinationales qui achètent, qui préfèrent acheter par la voie magouilleur, par la mafia, qui achètent chez le pays qui fournit ces minerais. Le Rwanda a toujours voulu occuper l'espace de l'Est, avoir le commandant militaire qui lui est favorable. Et l'histoire démontre, vous avez des militaires qui n'ont jamais été mutés. Lorsqu'ils sont envoyés à l'Est depuis des années, jamais les ennemis connaissent l'Ouest, l'Équateur, Mbandaka et Kafina, non. C'est seulement le Nord-Sud qui vous. Et ces gens-là, d'après l'histoire, enfin lumière, on nous renseigne que ce sont des gens nommés sous la bénédiction ou la recommandation de Paul Kagame. C'est connu. C'est connu. Alors, pourquoi est-ce que depuis tout ce temps, cette communauté internationale, si elle est prononcée, on veut des sanctions plus robustes, plus contraignantes, comme on dit grâce. Comment est-ce que, depuis qu'on a décrété le feu, l'agression continue de progresser, depuis Bounagana, malheureusement avec notre armée qui s'est spécialisée dans la rhétorique des replis stratégiques, on veut replier, jamais une localité gagnée, mais l'agression continue de Bounagana jusqu'à Goma, et Goma à Bukavu et maintenant Nyangezi vers Uvira, nous avons une armée qui devrait reculer. Et tout ça devant l'œil impuissant des décideurs du monde. Il faut comprendre vite que on est en train de nous duper, on se moque de nous, et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la résistance, la résilience, et populariser cette guerre au niveau de l'opinion, que le Congolais, le peuple se prenne en charge, comme en 98 avec vous lors de ce cas-là. On a vu des Rwandais ici qui ont fait face à la fureur des Congolais, parce que l'armée n'accompagne pas. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda, Kagame a été clair à Jeune Afrique, il a dit que les sanctions ne vont jamais intimider. Donc ils s'en foutent, ils s'en fichent. Et vous comprendrez que depuis qu'il y a eu cette litanie de sanctions, de cesser le feu, des condamnations, ça et là, l'Union européenne est restée taiseuse. Parce que l'Union européenne a acheté des minerais chez Kagame. Et ces minerais volés au Congo. Donc c'est un coup. Donc c'est comme si vous demandez au patron du voleur des sanctions des voleurs. C'est un non-sens. Il est question que les Congolais s'approprient leur destin parce que leur pays. Car l'homme blanc n'est pas que son intérêt. Il préfère acheter les minerais par la voie mafieuse, chez Kagame, les minerais volés chez nous, au prix des sang, au prix des violences, au prix des pillages. Et c'est même blanc auprès de qui nous allons demander des sanctions. Mon cher ami, ça ne viendra pas. Aujourd'hui, il est question de motiver la conscience nationale
motiver le patriotisme, que les Congolais s'élèvent. Togo se réveille car le pays est en train de partir. Aujourd'hui, moi je ne vais pas citer l'M23. L'M23 n'a aucune capacité de faire ce qu'il fait aujourd'hui. C'est l'agression rwandaise, c'est le RDFE. Tout est documenté, les rapports des Nations Unies. Malheureusement, ils sont là dans les sanctions, ils sont là pour des décisions courageuses contraignantes contre le criminel, les sanguinaires, bien identifié Paul Kagame. Hier, on a sanctionné M. Laurence Kanyuka, porte-parole du M23. On a sanctionné James Kabaré, jadis ici, chef d'état-major des FARDC, soupçonné de Kabila, puis rentré chez lui. Alors, de tout ce temps ici, tous ces gens n'ont pas vu que la RDC était victime de ces richesses convoitées par un état voisin qui nourrit des velléités expansionnistes. Non! Je pense que la question aujourd'hui, que les Congolais se réveillent et comprennent que la guerre qui est menée, ce n'est pas menée contre Tshisekedi, mais c'est menée contre le patrimoine commun, donc la RDC. Il est question de nous lever et débarrer la route à la forfaiture de Paul Kagame.
Et pendant ces temps, je rappelle que Thérèse Wagner fustige le fait que le M23 installe des administrations dans les entités qui l'occupent. Qu'en pensez-vous, Grâce et Chaco?
Exactement, il faut fustiger, mais comment est-ce que nous sommes aujourd'hui en République démocratique du Congo? Nous avons un gouverneur soi-disant, qui est installé à Goma, la bénédiction de Paul Kagame. On va vraiment plus citer Corneille Nangaa ici, sous la bénédiction de Paul Kagame, qui prête serment au vu et au su de la communauté internationale.
C'est pas constitutionnel.
C'est anticonstitutionnel. Ce n'est pas possible. Ce Corneille Nangaa, excusez-moi, des fois il y a des émotions qui viennent, Monsieur Corneille Nangaa, qui prétend vouloir libérer la RDC, est en train justement de balkaniser. Ça, c'est le processus de balkanisation de la RDC. S'il était libérateur, nous avons vu cela sous Musée Laurent-Désiré Kabila, qui est entré pour chasser la dictature de Mobutu, n'a pas installé les gouverneurs à chaque coin où il arrivait. Il a attendu de prendre le pouvoir sur toute l'étendue du territoire et de commencer à former un gouvernement, de commencer à nommer des gouverneurs par-ci, par-là. Vous voyez qu'il respecte la Constitution, il essaie de respecter les règles démocratiques. Mais vous n'avez pas encore atteint, soi-disant, l'objectif de toute la RDC. Là où vous êtes, vous mettez un gouvernement parallèle. Ce n'est même plus un danger, ça c'est une menace. C'est un regard fort, une menace en disant, allez voilà, ils occupent de ce côté. Et nous savons aujourd'hui, nous avons des contacts à Goma. Lorsque vous appelez, vous sentez que c'est une politique de terreur qui est à Goma. C'est le Rwanda qui est derrière et sous les yeux de la communauté internationale. Comment aujourd'hui la communauté internationale cautionne qu'un pays soit balkanisé comme ça, au vu et au sud de tout le monde? Il est en train de s'installer à l'est du pays. Tout le monde connaissait cela. Et c'est à fustiger. C'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, la ministre des Affaires étrangères fait un travail énorme de lobbying. Elle retrace tous les jours. Elle pousse en 24 heures. Elle a réussi à réunir le Conseil de sécurité pour alerter sur la situation à Goma, pour que finalement les termes soient mis sur le Rwanda. Mais là, il y a balkanisation et il y a urgence. Il y a urgence d'intervention. On ne peut pas laisser un pays s'ingérer dans un autre pays, s'installer et mener une politique de terreur dans la région. Il y a, la semaine dernière, on a vu ce jeune monsieur, cet artiste musicien qui a été tué.
Idengo.
Simplement parce qu'il dénonçait. Est-ce que c'est ça la démocratie que Corneille Nangaa est en train de prôner, puisqu'il dit qu'il s'élève au nom de la démocratie, puisqu'il se dit que c'est lui qui a fait venir le président Félix Tshisekedi au pouvoir, c'est un usurpateur, et que lui, il est démocrate. C'est ça la démocratie? Aujourd'hui, il faudrait que la communauté internationale se rende compte que celui ils sont en train d'utiliser a aussi son agenda caché. Et il est aussi en train d'exécuter son agenda caché envers ses propres frères et sœurs. On ne le comprendrait pas. Il installe des étrangers à Goma, au nord Kivu. Ils sont en train d'aller vers le sud Kivu. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Aujourd'hui, on est en train de balkaniser tout un pays simplement pour les minerais. C'est incompréhensible. On en manquerait les mots. Et nous sommes là pour redire cela. Il faudrait que ça cesse. De toute urgence, de tous les moyens que ce soit, il faudrait que ça cesse cette balkanisation.
Freddy Tioyo, vous...
Mais écoute, vous savez, ces gens qui sont investis là, c'est sur pied de quelle disposition de la Constitution, sur pied de quelle loi, ils prêtent serment sur base de quoi? Donc c'est de l'anarchie qu'on vient de correspondre à ce dans mon pays. Et puis, des gens que vous êtes comme gouverneur, lorsque vous visitez un peu l'histoire récente, leurs vidéos, c'était des gens qui s'affichaient comme des Rwandais. Je les rencontre eux. Mais eux-mêmes l'ont dit dans leur vidéo, dans leur témoignage. Ils étaient au Canada comme citoyens rwandais. Mais comment est-ce qu'on aura maintenant un Rwandais gouverneur au Nord Kivu? Ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire quoi? On a vu des gens qui eux-mêmes ont parlé de leur propre vidéo. Ils disent que je suis Rwandais et c'est à Ottawa. Et décidément, non, s'il devient Congolais, et c'est le gouverneur. Et ça aussi, l'homme ne voit pas ça. Marco n'a pas vu ça? Non, quand même. Et puis, même s'il faut le faire, mais lorsqu'on est le gouverneur, on est répondant du chef de l'État. Et lorsqu'on est répondant de qui maintenant? Sur base de quelle constitution? Donc c'est malheureux, malheureusement, maintenant il est question de soulever la population contre ces bandits-là, ces terroristes, qui tuent, qui pillent le magasin Bukavu, qui pillent à Goma. Il est question de remonter, de populariser cette guerre, que les Congolais comprennent que c'est leur terre qui part chez les sanguinaires Kagame. C'est ça le message qui va passer maintenant, c'est ça.
Anderson Erabo.
Exactement, c'est une chose à dénoncer, mais on va dénoncer jusqu'à quand? Actuellement, ici, dans la province de l'Ituri, tout le monde se pose cette question. Mais comment on peut avoir des gouverneurs? Donc, des bureaux, on va respecter l'ordre de qui? Ça, c'est mettre la population dans la confusion.
Freddy Tioyo, je vous pose à vous tous une question pour savoir que doit-on faire pour que toutes ces assises ne soient pas une lettre morte. La session de travail au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a eu aussi une autre session au niveau de Dar es Salaam à Tanzanie, EAC et puis SADC. Que doit-on faire pour que ça ne soit pas une lettre morte et qu'on retrouve peut-être l'intégrité de la RDC? Freddy.
Cher Freddy, je pose une question simple. La Libye fondamentale avancée par le Rwanda a toujours été que la RDC héberge les FDLR dans ses rangs. Alors, de Bounagana à Goma, à Bukavu, en passant par Nyangezi, Calais, Où est-ce que avons-nous déjà capturé un seul FDLR? Depuis leur croisade de Bougamagana à Goma, Bukavu, Nyangezi, aujourd'hui, ils ont trouvé un FDLR où? Les militaires qui sont rendus à Goma, au sein de l'unité, est-ce qu'il y avait un seul FDLR? Alors je me demande, peut-être que les FDLR sont à Kamwanga, sont à Kabinda, ou bien sont à Kapanga, ou Katanga, ou sont à Matadi.
Que doit-on faire pour
donc vous comprenez que...
Que doit-on faire
c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon cher ami,
il faut que
l'opinion internationale comprenne que le Congolais a maintenant la conscience pour défendre son pays. Et il faut l'exprimer à travers des marches de protestation, pas des pillages, mais faire des marches républicaines, démontrer le ras-le-bol à travers le monde que les Congolais sont fatigués de l'agression rwandaise. Parce que ça fait 30 ans jour pour jour, 30 ans qu'on massacre. 30 ans qu'on tue, 30 ans qu'on pille, 30 ans qu'on veut tout ce qui existe du monde dans ce pays-là. Plus d'un million de morts, je pense que ça devrait inquiéter l'opinion mondiale à trouver des solutions coercitives contre le sanguinaire connu et identifié Paul Kagame.
Quelles doivent être ces solutions coercitives?
C'est-à-dire que, par exemple, décréter un embargo sur le Rwanda, pas d'aide sur le Rwanda, comme a fait la Belgique, que la France prenne la décision courageuse des sanctions du Rwanda en gelant leurs avoirs, vous verrez qu'ils vont reculer, c'est ça.
Anderson Erabo, que doit-on faire maintenant là pour que ces fruits, ces résultats de session, que ce soit à Dar es Salaam, que ce soit à New York, ne puissent pas tomber à l'eau? Que doit-on faire pour sauver la RDC face à l'avancée du M23?
Cher confrère Freddy, moi je pense qu'il faut une mise en place des comités de suivi pour créer une comité chargée de l'application et des décisions de la réunion. Ou peut-être on peut insérer une coordination entre les acteurs de gouvernement ou armée, groupe armé et médiateurs des organisations internationales.
Est-ce que ça peut contraindre l'M23?
Oui, par la foi, nous acceptons cela. Il y a un autre point, cher confrère Freddy, on peut passer à la partie B, où sont à la négociation et médiation. On doit engager un processus de négociation impliquant toutes les parties prenantes dans ce conflit, ou faire appel à des médiateurs neutres. Exemple, on peut donner l'exemple avec l'ONU. Afrique et les leaders locaux, comme les leaders religieux, sont en train de faire. Ou peut-être on peut proposer des solutions acceptables pour toutes les parties.
Par exemple?
Ou les autochtones. L'exemple, les autochtones. Plutôt, oui, les autochtones.
Les Congolais entre eux?
Entre eux, oui, ou peut-être partage de pouvoir. On peut passer à un autre point, c'est la démobilisation. Le désarmement. Donc désarmer les groupes armés progressivement et sous une supervision internationale. Nous avons la foi que ça va marcher.
Merci Anderson. Et pour vous, Grace Chaco, que doit-on faire? Parce qu'il y a des sessions et des sanctions, mais rien n'est fait sur le terrain.
Je crois que je l'ai dit dans ma précédente intervention, les sanctions doivent être contraignantes, elles doivent être claires et précises. Je crois que le confrère Freddy, tu l'as dit, et je l'avais dit à la première partie.
Est-ce qu'il y a des mesures d'application ou c'est ce qui manque?
Les sanctions ne sont pas claires d'abord. Lorsqu'elles ne sont pas claires, comment est-ce qu'elles vont être appliquées? Lorsqu'on sanctionne le Rwanda et on lui dit de retirer ses troupes, allez, après, qu'est-ce qui le contraint à retirer les troupes? Qu'est-ce qui le contraint? On a tous vu comment même l'Afrique du Sud, le président sud-africain s'est emporté à un moment et Paul Kagame lui a répondu. Donc il n'y a vraiment rien qui a des limites en ce moment pour Paul Kagame et ses troupes. Il faudrait que ceux qui achètent les minerais au Rwanda ne le fassent plus. D'abord, c'est ça la première raison.
Là, vous voyez l'accord de l'Union européenne.
L'accord de l'Union européenne doit s'arrêter, puisqu'il y a des députés européens qui sont en train de dénoncer ça jour et nuit. Hier encore, au Parlement belge, on a dénoncé. Ils continuent de dénoncer. Mais ils sont minoritaires peut-être. Et la France, qui est vraiment derrière le Rwanda, doit s'assumer parce qu'ici, il y a un crime. La France a été de tous bords sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Tout le monde se souviendra comment le président Macron a défendu l'Ukraine. Aujourd'hui, le président Macron ne devrait pas faire ça sur la RDC. Ce serait injuste de sa part, c'est une politique de deux poids deux mesures. Donc aujourd'hui, il faudrait d'abord, pour que cette guerre cesse, il faudrait arrêter d'acheter des minerais vers le Rwanda. Il faudrait que tous les protocoles d'accord s'arrêtent et il faudrait aujourd'hui accepter que le Rwanda et la RDC se mettent ensemble. Parce que juste là, le président Félix Tshisekedi et le président Paul Kagame ne se sont pas encore mis ensemble pour parler.
Depuis le 15 décembre.
Ils ne se sont encore pas mis, ils se sont pas mis ensemble pour parler. Le président Félix Tshisekedi a été clair qu'il ne négociera pas avec le M23. Il parlera avec le Rwanda. Et à l'époque, tout le monde disait que le Rwanda n'était pas derrière le M23. Maintenant que tout le monde sait et a vu que le Rwanda est derrière le M23, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, dans toutes les médiations, que le Paul Kagame et Félix Tshisekedi se regardent dans les yeux et se parlent s'il y a quelque chose à se dire? Mais s'il n'y a rien à se dire et que tout est clair, que cette guerre est venue, soi-disant, pour protéger les minorités tutsi, etc., et que jusque-là, il n'y a pas une preuve, il faudrait que les sanctions soient clairement dites. Et je pense que cela pourrait faire reculer le Rwanda de quelques pas.
Face à cette situation que traverse la République démocratique du Congo, à Goma, Bukavu, Kamanyola, Lubero et puis Sangé, il y a aussi les églises de réveil ici à Kinshasa qui sont dans la cadence pour la recherche de la paix. Elles font de consultations sociopolitiques. Et comment trouvez-vous leur démarche, Anderson et Rabot?
Les églises disposent d'une influence considérable sur la population et les décideurs. Leur discours de paix pourrait apaiser les tensions et pousser les acteurs politiques à privilégier l'intérêt national. De notre côté, elles ne disposent ni des moyens coercitifs, ni du pouvoir institutionnel pour imposer leurs recommandations. Alors, cher confrère Freddy, ces consultations sont-elles une alternative, si je peux poser cette question? Est-ce que ces consultations sont-elles une alternative crédible? Elles ne peuvent peut-être une solution unique, mais elles constituent une voie supplémentaire pour la paix, à condition qu'elles soient restées neutres et inclusives, cher confrère.
Mais nous sommes face à l'avancée des hommes qui portent les armes et les hommes de Dieu face à des politiques. Est-ce que ça va donner quelque chose pour la RDC?
Face aux limites des initiatives gouvernementales et diplomatiques, l'église de Réveil et l'église protestante prennent une place inédite dans la médiation et la recherche des solutions. Leur démarche est simple, chers confrères. Rassemble les acteurs politiques à encourager les dialogues et pouvoir les pister pacifiquement de sorte que des sorties de crise.
Grâce à Jaco, vous voyez les églises, les pasteurs, les hommes de Dieu sont aussi à la recherche de la paix. Est-ce c'est une voie de sortie ou c'est un dualisme du fait qu'on a vu la CENCO et les CC dans cette procédure?
Il n'y a pas de dualisme lorsqu'on est dans la recherche de la paix. Tout le monde, toutes les parties prenantes devraient justement s'ingérer dans l'affaire, devraient s'intégrer pour que nous puissions tous trouver la paix. Il n'y a pas à dire puisque les CC et la CENCO, l'église des réveils prennent le pas. S'ils ne l'avaient pas fait, on allait les condamner. On allait leur dire, ils ne disent rien, ils ne font rien. Ceux qui sont en train d'être maltraités aujourd'hui, je vais vraiment prendre ce terme-là, qui sont en train d'être maltraités par le M23 à l'est du pays, font aussi partie des églises de réveil. Il est de devoir des pères des églises de se lever pour dire quelque chose et pour trouver la paix. Toutes les parties prenantes doivent être ensemble. Généralement, les conflits armés se terminent souvent par un accord de paix. Généralement, tous les conflits armés se terminent par un accord de paix. Et si toutes les parties prenantes, entre autres la société civile, dans sa branche des églises, peut se mettre, se lever et se dire, voilà, nous avons aussi un mot à dire, nous avons des consultations à faire, tant mieux. Ils ont la bénédiction du peuple, ils ont la bénédiction de chacun de nous. Mais si finalement le fond est... le massu vu et simplement qu'on voit qu'ils ont fait quelque chose. Non, nous avons besoin que tout le monde apporte sa pierre de solution pour que le conflit puisse finalement arriver à terme. Ce serait mon avis. C'est une initiative à encourager, à bousculer. D'ailleurs, il faudrait un peu plus d'initiatives dans ce sens. Il faudrait un peu plus d'initiatives où il faut parler, il faut dialoguer, il faut trouver des solutions. Il faut l'auto-prise en charge de la population congolaise par tous les moyens, les églises, les écoles, la jeunesse, les mouvements associatifs. Il faudrait que tout le monde se lève. Chacun, finalement, a sa démarche. Certains feront des marches de protestation, des marches de dénonciation, certains des déclarations. Et pour les églises, ce serait cette consultation pour arriver à trouver des solutions durables.
Freddy Chiyoyo, votre point de vue par rapport à la démarche des églises de réveil ici à Kinshasa pour la RDC?
Écoute, je suis un chrétien attenté, fervent. Je crois que Dieu agit et je pense que les Rwandais aussi prient Dieu aussi. Dieu est un Dieu juste. Alors, si les hommes d'église ont pensé que tout doit faire revenir dans ça, c'est une bonne chose, mais je crée l'endormissement. C'est vrai que toute guerre finit par le dialogue, mais dialogue avec qui? Aujourd'hui, au stade actuel, le dialogue c'est avec Kagame en face. Il veut quoi du Congo? Qu'est-ce qu'il veut? Parce que je me rappelle qu'au début du mandat de Tshisekedi, il a fait la ronde des pays africains, il a demandé, voilà, au lieu de continuer à tuer les gens, venez chez nous, vous avez des contacts, prenez, et l'RDC se retrouve. Cette voie-là légale, mais ça. Et c'est ce que nous devons rappeler maintenant autour d'une table de négociation, de dialogue. Mais ce n'est pas avec un supplétif qui sera porteur des desiderata, du pourvoyeur ou du parrain. Non! Il faut carrément aller dialoguer avec celui qui
parraine l'agression, celui qui parraine le pantin. Nous savons ce que nous valons et le monde compte avec nous à cause de notre forêt qui tient le monde entier aujourd'hui. Alors, il est question aujourd'hui, Dieu a César ce qu'il y a à César, a dit ce qu'il y a à Dieu. Dieu fera sa part, les princes de l'Église doivent travailler, même si on sait que parmi eux, il y a des politiciens, mais qui se voient des soutanes. Mais aujourd'hui, la question de faire valoir notre raison à la face du monde, contre le Kagame, par toutes les voies contraignantes et coercitives, à se retirer du Congo Kinshasa. Voilà.
Vous parlez de toute fin d'un conflit armé par la négociation, mais faudra-t-il que les hommes de Dieu et des églises de réveil puissent se rendre aussi à Goma, retrouver le M23, Corneille Nanga et tous ceux qui sont là?
Ça fera des ordres. Je pense qu'il devrait se joindre aux autres frères de l'ECC et de la FENCO. Parce que nous pensons que Dieu est un et n'est pas allé dans l'éparpillement. Non, non. S'ils peuvent aller, tant mieux, mais je pense qu'il serait mieux de coaliser les efforts avec les autres et faire marche ensemble. Que faire aussi, c'est comme si ça devient un marché d'argent. Non, 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 non. Il ne faut pas donner l'image que eux aussi veulent se toucher au chop-chop. Non, non. Non, non, c'est vrai que l'initiative est louable. Mais il faut le faire ensemble et non de manière éparpillée, non.
Comment sortir de cette crise sécuritaire qui vient de briser la démocratie en RDC? Faut-il la négociation, le partage de postes? Que pensez-vous en tant que journaliste congolais? Je commence avec vous, Anderson Erabo.
Merci beaucoup. Pour moi, je pensais qu'on doit sensibiliser les fidèles et les communautés sur l'importance du cessez-le-feu. Et puis, encourager les valeurs de pardon, de réconciliation et de coexistence pacifique. Alors, on peut aussi rencontrer les groupes armés pour comprendre leurs revendications et proposer des solutions non violentes et mettre en place un mécanisme pour détecter les tensions émergentes, chers confrères.
Merci Anderson, ça sera aussi votre conclusion. Freddy Chiyoyo, que pensez-vous pour sortir la RDC de cette situation?
Il y a deux canaux qui sont là. C'est Nairobi et Luanda, et que le Rwanda rentre en Angola, là où nous négocions, que le 23 aille à Nairobi, là où il n'y a pas de groupes armés. Point bas, ce n'est que ça, il n'y a pas d'autre voie. C'est ça aussi, ça le vrai dialogue d'ailleurs, c'est le vrai dialogue. Rentrons aux négociations que nous avions déjà commencé avec M. Loresso, qui s'est même fatigué, qui a beaucoup fait des choses, qui a évolué les choses, mais malheureusement, le sanguinaire Kagame a fait capoter les choses à la clôture le 15 décembre dernier. Donc, il y a deux canaux, il y a Nairobi et Luanda, deux processus majeurs mis en place par l'Union africaine qui puissent nous sortir de ce gouffre et puis faire vivre la paix de la passion de notre pays.
Merci Freddy Chiyoyo. Grâce Chaco, que faire pour la paix en RDC maintenant là?
Au-delà de tout ce que mes collègues viennent de dire, il faudrait la prise en charge et le sursaut patriotique des Congolais. J'en appelle vraiment au sursaut patriotique de tous les Congolais pour continuer à mettre la pression sur la communauté internationale, pour continuer à mettre la pression également sur nos gouvernants. Ils nous doivent la paix. Ils ont été élus, les députés nationaux, ils ont été nommés pour que nous ayons la paix. Au-delà de ce qui vient de l'extérieur, il faudrait que nous-mêmes, les Congolais, nous puissions mettre tout en œuvre pour avoir la paix en RDC.
Je vous dis merci d'avoir pris part à cette tribune de la presse sur les antennes de la radio Okapi. Anderson Erabo, journaliste de la radio-télé Évangile et Réconciliation de Nyakunde, RTR à Nitouri. Grâce Chaco, journaliste à la radio RTGA-FM à Kinshasa, et Freddy Tioyo, journaliste et responsable du site d'information sntv.cd basé à Kinshasa, à la technique Debs Vita. Merci de même à toute l'équipe Okapi de la tribune de la presse, Kelly Kouté, Guy Maté, sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation, c'était moi, Freddy Bikumbi Ignace. Au plaisir de vous retrouver vendredi.